Europe Soir, le 18-20.
Merci d'être fidèle à ces deux heures d'info. Avant, le journal de Christophe Lamarre, la carte blanche de l'entrepreneur Alexandre Malafaye qui dénonce la gestion désastreuse du chantier de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et puis le débat du Club des Idées, l'humour, la parodie pour résister face à la crise. Paralysés par un an de pandémie, les artistes sont avec nous. Quelques-uns, Christophe Alévèque, Christelle Cholet et Nicolas Briançon. Merci de nous rejoindre. Il est tout juste 19h. Voici les grands titres de l'info avec Christophe Lamarre.
Du bleu partout, des policiers, des gendarmes dans les aéroports, les gares et les péages. Le gouvernement renforce les contrôles pour s'assurer du respect des gestes barrières.
L'épidémie s'emballe et dans certains départements, elle est devenue incontrôlable. Les hôpitaux débordent et la question du tri des patients admissibles en réanimation se pose.
À Cannes, le maire ouvre la vaccination à tous les 50 ans et plus. Colère du ministre de la Santé qui le rappelle à l'ordre, mais David Linard le dit, je ne céderai pas.
Et puis quel rôle la France a-t-elle joué dans le génocide rwandais? Si elle n'est pas complice des crimes commis, elle porte une part de responsabilité. Lourde et accablante. C'est la conclusion de la commission d'historiens qui vient de rendre son rapport.
Quatre hommes en cavale à Lyon. Des malfaiteurs attaquent un fourgon blindé à la Kalachnikov en plein centre-ville. Ils sont toujours en fuite. Et puis France-Écosse ce soir à 21h. Dernier match du tournoi Destination. Les Bleus doivent réaliser un festival s'ils veulent remporter l'édition 2021.
La météo d'Anissa a dit un peu de fraîcheur avant le beau temps.
Oui, alors Anissa. Le beau temps, Wendy, ça sera pour tout le monde à partir de dimanche. Demain, nous avons encore un temps nuageux et humide sur la moitié nord. Et puis de la fraîcheur avec une baisse des températures, je vous dis tout à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec vous, Christophe Lamarre.
Face à la dégradation de la situation, l'État fait les gros yeux. Qui dit vendredi, dit souvent départ en week-end. Dans les 19 départements confinés, la consigne a été passée par le ministère de l'Intérieur.
Mais ça veut dire que la bienveillance de la semaine passée s'est terminée. Désormais, contrôle partout pour faire respecter la règle, dans les aéroports, aux barrières de péage, dans les gares. Reportage devant la gare de Lille-Flandre, où la police était là pour rappeler les touristes à l'ordre. Maximilien Carlier.
Bonsoir. Oh, pardon. Contrôle de police. Avez-vous une attestation
J'ai une attestation du boulot, je sors du travail.
C'est parfait.
C'est parfait.
Présenté.
J'habite à moins de 10 km.
Vous avez une pièce d'identité?
Oui.
Ça suffira. Ça suffira.
Une pièce d'identité, c'est pas encore la bonne adresse.
Ah. Vous avez un justificatif de domicile.
Une quinzaine de policiers sont mobilisés devant la gare Lille-Flandre. Contrôle du confinement, certains comprennent, comme Antoine, en stage à Lille. Il retourne chez lui à Valenciennes.
Il faut vérifier, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas respecter, donc c'est normal, ils font leur boulot.
Mais pour d'autres, comme Michel, c'est l'incompréhension. Pas de pièce d'identité sur lui, 135 euros d'amende.
La rigueur, je la comprends pas. C'est exagéré, là, il y avait... Ça s'appelle diesel, ça.
Je crois que la pédagogie a été faite largement.
Jean-François Papineau est le directeur départemental de la Sécurité publique du Nord.
Il faut surtout que la présence policière puisse permettre de dissuader les personnes de commettre des excès et bien sûr procéder au contrôle, parce que s'il n'y a pas de contrôle, il y aura forcément encore plus d'excès.
Et l'objectif, c'est bien sûr ici d'éviter les départs en vacances, également les rassemblements de plus de 6 personnes. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
L'épidémie qui s'emballe dans les 19 départements confinés, dans certaines régions comme en Île-de-France, les médecins n'hésitent plus, Christophe, à dire qu'elle est hors de contrôle et cela se ressent dans les hôpitaux.
Ouais, les services de réanimation de Paris et sa région sont débordés par les malades Covid, plus de 100% des lits de réa occupés. Les médecins redoutent de devoir trier les patients qui pourront entrer dans une unité de soins intensifs, des choix qu'ils n'avaient pas eu à faire lors de la première vague. Le professeur Yves Cohen, responsable du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Depuis 48 heures, on arrive à des chiffres que l'on avait connus lors de la première vague, c'est-à-dire en mars-avril 2020. Habituellement, nous avons dans notre groupe hospitalier 16 lits de réanimation. Nous avons augmenté à 32 lits de réanimation début octobre. Depuis un mois, nous sommes montés à 40 lits et on nous demande encore d'augmenter à 46 lits demain. Maintenant, on ouvre demain donc les 6 lits. Après ces 6 lits-là, donc on aura 46 lits de réanimation sur le groupe hospitalier, on ne pourra absolument plus ouvrir d'autres lits. Donc obligatoirement, on va peut-être pas trier, c'est un mot qui est utilisé par les urgentistes, mais nous, on va choisir les patients à prendre. Quand on aura deux patients avec un seul lit, on va être obligé de prendre un seul patient. Donc il y aura un choix de patient à faire et malheureusement, ça veut dire que ce sera un sacrifice pour le patient. C'est ce qu'on nous pousse depuis plusieurs semaines à faire. Et j'ai bien peur qu'on va y arriver. Et donc clairement, ce sont des patients qui vont être sacrifiés. Nous sommes des réanimateurs, on se bat pour la vie. Des choix comme ça, de ne pas prendre un patient parce qu'il y a un manque de lits, C'est insupportable pour nous.
Voilà, la réalité bientôt peut-être du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. C'était le professeur Yves Cohen avec Victor Dolande. Plus que jamais, le gouvernement compte donc sur la vaccination. Matin, midi et soir, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron. Message reçu et très bien reçu par le maire de Cannes, on en parlait avec les grandes voix. Trop bien, même peut-être trop bien reçu.
Oui, David Lisnard a ouvert la vaccination aux Cannois de 50 ans et plus. 5000 doses sont disponibles, dit-il. Une décision qui n'a pas du tout plu au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a rappelé à l'ordre hier soir. Il y a un protocole à respecter et surtout, il faut s'assurer que toutes les personnes de plus de 70 ans ont bien été vaccinées. Eh bien, le maire de Cannes, lui, persiste et signe.
Sur la base des doses attribuées par l'État, l'ARS, nous pouvons passer donc aux personnes de plus de 50 ans. Il serait quand même incongru que le ministre de la Santé déjuge le président de la République qui nous a dit d'aller vite et de vacciner matin, midi et soir. C'est ce que nous faisons à Cannes. J'ai été très surpris de cette attaque polémique. On a besoin d'être concentré sur la tâche. On ne peut plus perdre de temps. La France a perdu beaucoup trop de temps. On aurait plutôt nous encourager que nous blâmer. Il faut quand même que ceux qui, toute la journée, nous apportent des injonctions, parfois contradictoires, voire nous font des leçons de morale ou nous prennent pour des enfants, exercent une simple aptitude, c'est celle du sens pratique. Et vous verrez qu'on luttera beaucoup plus efficacement contre la maladie que ce que l'on fait depuis un an en France. Il y a une multitude de mairies qui travaillent particulièrement bien en France. Je pense que l'État a intérêt à s'appuyer dessus, comme elle aurait eu intérêt à faire intervenir le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur sur la logistique, puisqu'on voit bien les carences du ministère de la Santé qui est extrêmement défaillant. On est tous citoyens, mais j'aimerais qu'on nous laisse travailler tranquillement, c'est tout.
Le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, avec Frédéric Michel. Les vétérinaires, les dentistes vont pouvoir vacciner également contre la Covid.
Et la Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Les vétérinaires ne pourront vacciner, attention, que dans les centres de vaccination et pas dans leur cabinet. Les dentistes, en revanche, pourront le faire aux deux endroits.
C'est un rapport très attendu et très sensible, celui qui doit déterminer le rôle de la France dans le génocide de Rwanda.
On parle du massacre des Tutsis en 1994, au moins 800 000 morts selon l'ONU. La France a été accusée d'avoir non pas couvert, mais aussi participé à certaines atrocités commises. L'enquête menée par les 14 historiens de la Commission vient de rendre ses conclusions au président de la République. Elles sont cinglantes. La France porte des responsabilités lourdes et accablantes, Louis de Ragnel.
Oui, c'est ce que dit ce rapport commandé il y a 2 ans par Emmanuel Macron. Un rapport très dur contre l'action des autorités françaises de l'époque. La France était alors présidée par François Mitterrand. Alors dans le détail, il y a au moins 2 choses à retenir. D'un côté, il est pointé, je cite, la responsabilité politique, institutionnelle, intellectuelle, éthique, morale et cognitive de la France, mais aussi l'aveuglement de notre pays face au génocide qui se préparait. Et de l'autre côté, et c'est très important, le rapport écarte toute notion de complicité de génocide. Nulle part on a trouvé la quelconque intention de la France de permettre, contribuer ou participer aux actions de génocide, m'a confié tout à l'heure un conseiller du président. Alors s'il y a bien un endroit où ce rapport est accueilli de manière glaciale, c'est au sein des forces armées françaises, d'autant plus que plusieurs généraux actuellement en poste ont participé dans leurs jeunes années à l'opération Turquoise pour précisément mettre fin au génocide et sauver des millions de Tutsis. L'Élysée précise que la finalité n'est pas d'établir des responsabilités individuelles, mais bien de montrer des dysfonctionnements d'appréciation du pouvoir de l'époque qualifiés d'hyper-centralisés. In fine, l'objectif du président est de rapprocher de manière irréversible la France et le Rwanda. Alors nous le verrons assez vite si, par exemple, le Rwanda accepte à nouveau la nomination d'un ambassadeur de France dans sa capitale, Kigali.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Europe 1. Wendy Bouchard.
19h08, si vous nous écoutez, le journal revient dans un instant et on vous parle de cette attaque de fourgons blindés à l'arme de guerre en plein centre de Lyon.
Et puis France-Écosse en rugby, il faudrait un miracle. Heureusement, Super Dupont est là, son portrait en fin de journal.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
19h10, Christophe Lamarre nous informe de ce qui s'est passé à Lyon. C'était en plein centre-ville, Christophe. Des hommes se sont attaqués à un fourgon blindé.
Oui, on parle de 4 hommes ce soir. Ils sont toujours en cavale d'ailleurs. Justin Morin, ils n'ont pas hésité à sortir des Kalachnikov pour attaquer un fourgon blindé.
Oui, effectivement, ils ont surgi aux alentours de 9h ce matin alors que les transporteurs étaient en train de livrer une société rue Thomassin dans le 2e arrondissement. Face aux armes, ils ont collaboré et abandonné leur cargaison aux malfaiteurs. Des bijoux et des métaux précieux ont été dérobés. Le butin est estimé à 275 000 euros. aucun coup de feu ni de blessés à déplorer. Les braqueurs ont ensuite pris la fuite en voiture. Ils ont été pris en chasse jusqu'à Villeurbanne. C'est là que la police a perdu leurs traces. Un hélicoptère de la gendarmerie est venu en renfort pour survoler la zone. Mais pour l'instant, les auteurs des faits n'ont toujours pas été retrouvés.
Justin Morin du service police justice d'Europe 1. Un grain de sable dans la mondialisation, c'est comme ça qu'on peut l'illustrer. En effet, il mesure 400 mètres de long, il pèse plus de 220 000 tonnes et il s'est planté en travers d'une route maritime stratégique.
L'Ever Given bloque toujours la circulation dans le canal de Suez. La tentative de remorquage a échoué cet après-midi. 150 bâtiments attendent de pouvoir le traverser, ce canal, mais les opérations de dégagement pourraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon les experts. Le rugby France-Écosse ce soir, dernier match du tournoi des Six Nations pour les Bleus.
Et on en parlait avec Bernard Laporte, dernière possibilité de remporter le trophée. Il y a un certain nombre de critères tout de même. Il faut battre l'Écosse, 21 points de différentiel, inscrire 4 essais. Ça fait beaucoup, mais on va croire dans cette équipe, les Bleus ont notamment un Superman dans leur rang.
On pourrait l'appeler Super Dupont, mais ce serait le renvoyer au personnage imaginé par Gottlieb et Loeb. Antoine Dupont est nettement plus sympathique et surtout bourré de talent. Ce demi de mêlée est la véritable révélation du tournoi, Marguerite Lefèvre.
Il n'a que 24 ans et symbolise à lui seul le renouveau de cette équipe de France unie et conquérante. Antoine Dupont, c'est un petit gabarit, 1m74, mais autant de puissance et de vélocité. Un acrobate doté d'un sens du jeu qu'il rend souvent décisif. Ses coups de génie peuvent faire basculer n'importe quel match. Le demi de mêlée du stade toulousain est aujourd'hui l'une des cartes maîtresses des Bleus et le sélectionneur Fabien Galthié en a bien conscience.
On a des joueurs qui émergent dont on parle de manière très positive, des joueurs qui inspirent bien sûr dans le groupe, mais qui inspirent à l'extérieur du groupe. Et Antoine Dupont fait partie de ces figures.
Autant de détermination sur le terrain que de discrétion en dehors. Malgré son irrésistible ascension, ce fils d'éleveur garde les pieds sur terre. Lui qui l'an dernier avait été élu meilleur joueur du tournoi, c'était une première pour un Français. Antoine Dupont a l'occasion à nouveau ce soir de montrer l'étendue de son talent et pourquoi pas de conduire les Bleus sur le toit de l'Europe.
Marguerite Lefèvre du service des sports d'Europe 1 France-Écosse, c'est à 21h, ce sera suivi sur Europe 1 et dès 20h, émission spéciale rugby animée par Lionel Rousseau.
C'était le journal de Christophe Lamar qu'on retrouve à 19h30 sur Europe 1. Merci Christophe. Anissa Haddadi pour la météo. On va dire que demain samedi, c'est un jour de transition. Hein ?
Parfaitement, c'est ça Wendy, avec des flocons encore demain matin parce que
bah oui, bien sûr.
La nuit va être un petit peu agitée sur la moitié nord. On a eu beaucoup de pluie sur le nord-ouest aujourd'hui. La perturbation est en train de s'évacuer vers l'est. Donc là, elle traverse la région d'Angers, la région parisienne. Et puis doucement, demain matin, les nuages vont s'évacuer. Donc nous aurons dans l'est et notamment sur les Vosges quelques flocons à partir de 500 mètres. Mm-hmm. Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige va se fixer à 1200 mètres. Sur les côtes de la Manche, nous aurons des averses et des giboulées, surtout demain matin. Et puis de la Bretagne à l'Alsace, au nord de la Seine, le ciel reste nuageux et menaçant demain matin. Au sud de la Loire, là c'est beaucoup plus sympa puisque le ciel est plus lumineux, le temps est sec, calme et ça va au fil des heures s'éclairer et ça fait du bien. C'est au nord de la Seine que le temps va rester encore nuageux. Les températures, elles perdent quelques petits degrés demain, 0 à 10 degrés le matin, 0 pour Aurillac, 3 à Rouen et Perpignan, 5 à Paris et 8 à Nice. Et puis dans l'après-midi, on aura seulement 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Rodez et Lille, 13 à Paris, 17 pour Bordeaux et Bastia, 18 à Martigues et 20 degrés à Toulon. Mais vous le disiez, c'est une transition, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à dimanche.
Merci, après le changement d'heure. Merci Anissa.
C'est ça.
Haddadi. Dans un instant, notre débat sur l'humour et la parodie comme arme de résistance face à la crise pour certains artistes, notamment ceux que je reçois, Christophe Alévèque, Christelle Cholet, Nicolas Briançon. Mais d'abord, voici la carte blanche de votre vendredi.
Europe Soir, Wendy Bouchard.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes
je vous dis pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
La carte blanche d'Alexandre Malafaï ce soir. Parole à l'entrepreneur et fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaï.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Ce soir, cette carte blanche est un coup de gueule contre la gestion par le Qatar du chantier de la Coupe du Monde de foot. Chantier pour une coupe qui se tient normalement en 2022.
Absolument, absolument Wendy. En fait, ce qui se passe au Qatar est très grave sur le plan humanitaire. Si l'on en croit un récent article du très sérieux journal anglais The Guardian, 6500 travailleurs auraient trouvé la mort depuis 2010 sur les chantiers de construction pour la Coupe du Monde. Alors, je n'affirme pas que ce chiffre soit exact, mais le Guardian n'est quand même pas réputé comme étant un propagateur de fake news. Et puis, ça fait des années que des ONG, en particulier Amnesty International ou encore l'Organisation Internationale du Travail, tirent le signal d'alarme. J'ai d'ailleurs retrouvé un article du Monde de mars 2016 qui relatait les conditions de vie et de travail désastreuses de ces ouvriers qui viennent d'Inde, de Malaisie, du Bangladesh, d'Afrique et d'ailleurs. Et à l'époque, on parlait déjà de 1200 morts. Nous sommes en 2021, 5 ans plus tard, et on dirait bien que rien ne change sous le brûlant soleil qatari.
Alors ces chiffres, on aura peut-être du mal, hélas, à les valider, à les certifier, mais s'ils sont exacts, ils sont terrifiants. On le rappelle, 6500 ouvriers qui auraient péri sur ce chantier.
Ouais, c'est énorme, ce sera difficile à vérifier, mais c'est énorme, c'est presque impensable. Mais en fait, si vous voulez, quand vous prenez les chiffres sur 10 ans, ça ne fait que 2 morts par jour. Et sur un tel chantier, tout devient relatif, évidemment. D'autant qu'il s'agit d'un chantier pharaonique. Il faut quand même construire rien de moins que 7 stades, un aéroport, des infrastructures de transport, des métros, des hôtels, tout ça en plein désert, dans des conditions dantesques, et tout ça pour 4 semaines de spectacle.
Autant de vies humaines pour cela, c'est ce qui vous choque peut-être encore plus, Alexandre Malafaï ?
Ah oui, vraiment, il y a de quoi, 6500 morts pour notre bon plaisir. Non, c'est trop. Et puis 6000, c'est toujours trop, mais 6500 morts, je rappelle quand même que c'est 6 fois le drame du Rana Plaza. Mmh. Souvenez-vous, c'était en 2013 au Bangladesh. 1100 personnes étaient mortes à ce moment-là dans l'effondrement d'un immeuble qui avait été transformé en usine.
De textile.
L'onde de choc avait été planétaire et ça avait ouvert la voie au principe de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants. Mais là, dans le cas du Qatar, il n'y a rien. Le foot, c'est sans doute sacré et il ne faut pas venir gâcher la fête. Comme quoi, on peut vraiment considérer que notre indignation est à géométrie variable. Or, de mon point de vue, le seul fait qu'il y ait un doute constitue en soi un vrai scandale. Et elle est où l'éthique des joueurs ? Elle est où l'éthique des fédérations professionnelles et des grands pays comme la France, défenseur des droits de l'homme ? En fait, je crois qu'il y a une urgence, ce serait de lever ce vilain doute.
Oui, vous le dites comme tant d'autres associations de défense des droits de l'homme. Oui. Que dit de son côté la Fédération internationale de foot ?
Rien. Chaque fois qu'on l'interpelle, la FIFA esquive. Je n'allais pas dire qu'elle botte en touche parce que c'est du rugby. Elle se retranche derrière la communication lénifiante du Qatar. Tout va bien, rien d'anormal, pardon, disent les autorités locales. Eh bien, moi, je dis qu'il est encore temps de réagir et de demander des comptes au Qatar. Si les sportifs les mieux payés de la planète l'exigeaient, ils sont nombreux, ça changerait tout. Il me semble qu'ils sont souvent les premiers à s'indigner pour plein de raisons. Et là, on est en train de leur construire, si je puis dire, des pelouses de sang et ces silences radio. Je crois que ce n'est pas possible. Ils devraient exiger que le Qatar et les entreprises concernées ouvrent leurs portes à une mission de contrôle internationale placée sous l'égide de l'ONU. Si tout est faux, eh bien alors tant mieux et jouons. Eh bien, si ce n'est pas le cas, si c'est un vrai scandale, eh bien, boycottons cet événement, tant pis, et donnons une bonne leçon à ceux qui le méritent. Pardon Wendy, mais le dieu argent ne peut quand même pas tout acheter sur cette terre.
Ouais, et si c'est vrai, ces vies humaines auront tout de même été perdues. 6500 morts sur ces chantiers du Qatar pour notre bon plaisir, pour reprendre votre formule. Alexandre Malafaï, merci pour cette carte blanche. Vous qui présidez le think tank Sinopia, merci beaucoup.
Europe 1, Wendy Bouchard.
Dans quelques secondes, le club des idées. Peut-on rire de la pandémie ? À quelles conditions et sous quelle forme ? Eh bien, certains artistes l'affirment, le revendiquent même. J'accueille 3 personnalités, 3 univers, 3 types d'occupations de terrain dans l'attente du public. Christelle Cholet et ses parodies en chanson, l'engagement en humour de Christophe à l'évêque et la résistance dans les grands textes de Nicolas Briançon. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
Nous sommes ensemble, chers amis, jusqu'à 20h avec au programme de notre Club des idées ce soir, l'humour. L'humour, la caricature, la parodie comme moyen de résistance. C'est vrai que dans cette actualité triste, macabre, mortifère, c'est peut-être une bonne recette du quotidien. C'est celle qu'emploient, en tout cas, entre autres, Nicolas Cante, Louane Roumanoff, Bertrand Chamerois sur Europe 1, comme nos 3 artistes présents ce soir. Elle chante, elle nous fait sourire et rire beaucoup. Christelle Cholet, bonsoir Christelle.
Bonsoir Wendy.
On va entendre quelques-unes de vos parodies chantées. C'est sur votre compte Facebook notamment. Christophe Alévèque, bonsoir, monsieur bonsoir. Le Premier ministre des humoristes. Vous qui, avec votre bien, conférence de presse parodie Jean Castex avait frôlé le 1,5 million de vues, malgré la censure de Facebook, etc. etc. On y reviendra.
Peut-être.
Ou peut-être
merci,
grâce.
Merci. Voilà. YouTube, pas Facebook. Mais
YouTube,
c'est les
pardon.
Mêmes, hein, de toute façon.
Nicolas Briançon, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Acteur, metteur en scène qui est avec nous à la lecture des grands textes, le classique, c'était au cœur du confinement avec vous. Il y a une opération au Théâtre de la Renaissance dont on va parler notamment. L'humour aussi vous sauve. Alors, nous parlions de parodies chantées, le mieux c'est de l'écouter. Elle résume la vôtre, Christelle Cholet, en 2 minutes l'année 2020. Elle a été vue 7 millions de fois en 3 mois. Écoutez.
Cette année de merde, elle avait très mal commencé. Surtout pour Benjamin Griveaux. Et dans les manifs, ces putains de la boxe emboîtent le pas. Vitrine cassée, y a pas de fessée ou quoi ? Pas le temps de souffler, dans le pays on devient tous des cons.
Fini !
À 20h, y a du monde au balcon. On Skype, on zoom, on bouffe et on sort son chien. Si on veut se marier, pas moyen.
Cette année de merde,
j'en peux plus, j'en peux plus.
Il manquerait plus qu'un pigeon me chie dessus. Ou que des martiens viennent nous botter le cul. J'en peux plus de cette année de merde.
cette année-là, parodie de Christelle Cholet, une parodie prophétique car cette année de se poursuit. Hein, donc on a envie toujours avec vous de se détendre. Alors faire danser sur une pandémie, c'était pas évident,
mais
vous l'avez fait.
En fait, elle a fait 7 millions de vues pour ça, je crois. C'est parce que vraiment, on est tous dans la merde et qu'on ressent tous le besoin d'aller danser sur ça et d'en rire pour évacuer, quoi, parce qu'on n'a rien d'autre à faire.
Alors, elle a été partagée, mais comment les gens ont réagi? Comment les internautes ont réagi?
Les gens l'ont prise comme un hymne, un hymne momentané. Et j'ai reçu énormément...
Tourné sur le parvis de la Tour Eiffel.
Oui, sur le parvis de la Tour Eiffel. Puis c'est marrant parce que ça s'est fait vraiment en 3 minutes. J'ai appelé les potes, vous voulez venir danser avec moi? Oui, on arrive. Et puis c'est comme ça. Puis on a tourné dans Paris avec mon chien. Et puis tout d'un coup, il y a une résonance partout, dans toute la France et même un peu plus loin. Donc,
Bah oui, mais je crois que vous mettez de la musique aujourd'hui dans un supermarché. Tout le monde se met à danser. Christophe, allez, allez, on a
il n'y a plus de boîte de nuit, alors forcément.
Non, mais vous l'avez vu, vous connaissez les parodies de Christelle?
Oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est bien, mais le parodie de Christelle ou la séquence que j'ai mis, il faut bien se dire aussi, c'est qu'en ce moment les gens ont que ça à foutre. Je pense qu'en temps normal on mettrait les séquences comme ça, les gens regarderaient moins, mais là je veux dire, le qu'est-ce qu'on fait, couvre-feu, on rentre, le jour sans fin, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va essayer de se distraire.
Oui, puis on a l'impression aussi de se donner un peu la main, même si on veut pas se toucher les mains évidemment et se voir. On a l'impression de se rallier à quelque chose comme ça et d'être ensemble. Et je crois que en ce moment, on a plus que besoin d'être ensemble.
Bah oui,
on y arrive
c'est
pas
la
souvent, mais...
mission essentielle de l'artiste aussi, partager son art et ses émotions.
Ce qui est très beau dans nos métiers ou dans notre travail d'acteur, c'est que notre boulot, c'est que dans une salle composée de dans une salle en temps normal, de 500, 600, 1000 personnes, tout d'un coup, des gens totalement différents dans cette salle, d'opinions politiques différentes, de sensibilités différentes, de couleurs différentes. Tout d'un coup, ces gens se mettent à respirer au même rythme, à ressentir la même émotion au même moment, ensemble. Voilà. Et je pense qu'on a terriblement besoin en ce moment d'être ensemble, de respirer ensemble, de vivre ensemble.
Oui, mais il y a deux options, si vous voulez, si vous me permettez, Nicolas Briançon. Il y a ceux, par exemple, vos amis artistes qui occupent des théâtres, 70 théâtres aujourd'hui en France, ou salles de spectacle, et qui sont entre eux, mais parce qu'ils ont besoin aussi de faire partager ce message, qui nous parvient d'ailleurs, on a fait suffisamment d'émissions dessus. Et puis, il y a tenter de rire ou de détourner la situation, comme vous pouvez le faire, et trouver des expressions différentes, Nicolas.
Chacun, d'abord chacun réagit à ce que nous traversons en ce moment comme il le peut et comme il l'entend. Je me garderai de tout jugement sur les uns et les autres, sur les actions des uns et des autres. J'en ai pas. J'ai un besoin de créer quelque chose. C'est ma façon à moi de créer ma petite résistance. Je ne suis porte-parole de personne. Je ne suis pas un porte-parole. Je ne représente que moi, dans mon petit coin. Et dans mon petit coin, j'ai besoin avec d'autres, parce que mon métier est un métier d'équipe, est un métier de groupe, de créer des choses qui rappellent au public qu'on est là et qui rappellent ce moment de partage fondamental. Il va falloir que les gens reviennent dans les salles, il va falloir que les gens nous retrouvent.
Il va falloir les réapprivoiser.
Et au cinéma,
mais
et au théâtre.
Mais je crois qu'ils ont très envie de revenir.
Et j'espère, oui, qu'ils auront envie, on a besoin de ne pas couper ce lien non plus complètement,
bien sûr.
C'est fondamental.
Mais tenter de rire de la situation, de dédramatiser. Je vous annonçais, venant sur Europe 1 aujourd'hui, et Adeline sur Twitter réagit en disant, mais pardon, pour moi, c'est pas de l'humour, c'est une façon de se moquer en permanence des décisions prises. Elle nous écoute quand même, Adeline, mais que lui répond Christophe à l'évêque? On va entendre un extrait de votre conférence de presse.
Bien regarder la séquence, Adeline. Il faut qu'elle revienne.
Mais
j'ai pris, c'était une séquence que j'ai fait comme ça, parce que moi, là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol d'abord.
Ras-le-bol de quoi? Des conférences de presse sanitaires?
Ras-le-bol des numéros d'autosatisfaction tous les jeudis à 18h. Ras-le-bol d'entendre une infantilisation permanente. Et puis, ras-le-bol qu'il n'y ait pas de débat. Voilà. Parce que depuis un an, nous ne sommes plus en démocratie. Il y a un décret d'ailleurs, nous sommes en état d'urgence. Et si on nage pas dans le couloir de pensée officiel, on se tait. Si on n'est pas un spécialiste, on se tait. Donc, ça veut dire que nous, on subit. On parlait des théâtres fermés tout à l'heure. Il y a eu une étude sur les lieux de contamination. Nous arrivons en queue de peloton. On se demande toujours pourquoi les théâtres sont fermés. Mais ils le sont. et on paye toutes les erreurs. Oui, donc, oui, on peut critiquer. Mais dans cette séquence, c'est pas ça que je critiquais. C'est le marketing de l'angoisse.
Oui.
C'est-à-dire, c'est les chiffres.
Avec des slides, avec des palettes.
Nous sommes à brevet de chiffres, de comparaisons. Et ce que je dis au début de la séquence, les chiffres, on en fait ce qu'on veut. Donc, j'ai voulu renverser le principe... et puis faire d'autres comparaisons.
On va vous écouter en conférence de presse juste après la pause et vous nous direz comment vous occupez le terrain, vous aussi, Nicolas Briançon. Il y a une opération notamment au Théâtre de la Renaissance et vous également, Christelle Chollet, en humour et en musique. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Le club des idées sur l'humour pour dédramatiser la situation du moment. On a envie de comprendre ce qui se passe aussi dans la tête des artistes, tant de manière de résister, tant de manière aussi d'occuper le terrain. Trois d'entre eux sont avec nous ce soir, avec la volonté quand même de tenter de nous faire du bien. Je dis tenter, mais ils réussissent évidemment. Christelle Chollet est avec nous, Christophe Alévèque et Nicolas Briançon. Nicolas, il y a une opération au Théâtre de la Renaissance, une série de clichés. Alors, on vous a pris en photo, comme Isabelle Carré, comme Bernard Campan, comme Max Boublil, dans ce théâtre vide, évidemment. Racontez-nous un petit peu le principe
c'est une idée
qui
n'est pas du tout de moi, qui vient d'une jeune photographe qui s'appelle Astrid Jamois, qui est formidable et qui a été appuyée par Morgan Schmilmaker au Théâtre de la Renaissance. Et l'idée, c'était, oui, de photographier des acteurs dans des situations qui pourraient être des situations en confinement. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait un acteur quand ça confine
Ils se sont ennuyés
sans vous. Dans le théâtre.
Oui.
Donc, y a, vous verrez François Berléand pêcher du premier, du deuxième balcon.
ça lui va bien.
Dans la salle, oui, il l'est fait pour.
Et toi, tu fais quoi?
Nous, on joue au street poker avec l'équipe du Canard à l'Orange. Et évidemment, ça donnait l'occasion à François Vigentelli de montrer ses fesses.
Eh ben oui, évidemment.
Et son Molière.
Mmh.
Et
dans les fesses.
Donc on s'est beaucoup amusé, mais surtout ça donnera lieu à une exposition et au Théâtre de la Renaissance. Et ces photos seront vendues.
Pour des associations. Oui.
Voilà, donc c'était à la fois marrant de se retrouver dans joyeux de se retrouver dans un théâtre pour revoir un théâtre.
Même si je précise que vous ne chômez pas, parce que vous travaillez aujourd'hui sur Jacques et son maître, que vous, normalement, vous produirez.
Quand on touche du bois, on ne sait plus quoi toucher en ce moment pour être sûr.
Théâtre,
a priori, en septembre.
On
espère en septembre qu'on pourra jouer. Et oui,
je
reprendrai Jacques et son maître de Mylène Conera au Théâtre Montparnasse. Oui.
Ouais, je dis simplement aux esprits chagrins qu'un artiste travaille, un artiste. Ne se tourne pas l'épouse, Christelle Chollet, preuve vos parodies que vous réalisez comme des films avec beaucoup d'esthétique.
Ben oui, mais encore une fois, ça m'a permis de développer ce côté-là chez moi. Je n'étais pas à fond sur les réseaux avant le Covid. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pour garder ce lien. Et je voulais parler de ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, à propos des chiffres qui nous font peur. Mm-hmm. Et je trouve que la peur, c'est un moyen très, 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 très violent et que ça peut devenir encore plus violent. Quand les gens ont peur, c'est chaud pour la France, c'est chaud pour les dirigeants. Et je parlais de l'occupation je pensais à l'occupation des théâtres. Je lisais un truc dans Libération hier. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au conservatoire, qui sont en école de théâtre. Ils ont peur parce qu'ils n'ont aucun avenir. On parle des étudiants partout, mais eux, on n'en parle pas. Ils ne sont pas représentés. Et ils sont là. Il va y avoir un embouteillage après dans l'avenir des tournées, du théâtre, des créations qui vont se faire. Et eux, ils ne savent pas où ils sont. Donc forcément, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ne pas savoir où ils vont aller. Et du coup, ça fait... ça fait des gens qui sont en guerre et qui peuvent pas comprendre.
Des jeunes auxquels vous parlez, vous vous adressez, Christophe Alévèque, notamment dans les 12 minutes de parodie de conférence de presse sanitaire de Jean Castex, c'est vous qui représentez le Premier ministre. Écoutez quand vous parlez des jeunes, justement.
Un jeune sans comorbidité, selon les dernières évaluations scientifiques à affiner, aurait donc plus de chances de gagner au loto que d'être emporté par le virus. Et nous nous en réjouissons. Ce sont eux qui vont payer la dette dite Covid.
Voilà, c'est l'humour. C'est un extrait de cette conférence de presse. Alors, ça nous fait rire, mais certains pourraient vous reprocher de sous-estimer cette pandémie. Est-ce que c'est là-dedans qu'a attaqué YouTube pour vous censurer, Christophe Alévèque, justement?
Oui, parce que j'ai été censuré par YouTube.
Pendant deux jours, la vidéo a disparu.
Pendant deux jours, j'ai amené le texte, pour ne pas dire n'importe quoi, qui a vraiment supprimé la vidéo.
parce que pourquoi votre contenu enfreint notre règlement ? YouTube n'autorise pas les contenus qui remettent explicitement en cause l'efficacité des mesures de distanciation sociale et d'auto-isolement préconisées par l'OMS et les autorités. Ça veut dire que... ou ils n'avaient pas regardé...
Oui, parce que vous ne parlez pas du tout du masque, du non-respect des barrières, des gestes barrières, ni quoi
et
que
puis,
ce soit.
48 heures plus tard, même mot, pardon, on a regardé, on s'est trompé. Bon, mais ça, ça montre qu'il y a quand même un couloir de pensée dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont... tout le monde est à cran. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre en cause les mesures. C'était pas du tout mon cas. Je voulais simplement... j'en ai marre, moi, de ces médecins qui viennent en permanence sur tous les plateaux de télé pour nous coller l'angoisse. Et au bout d'un moment, on ne les entend plus parce que ça fait 4 mois qu'ils nous disent « Attention, on est arrivé au seuil de tolérance ». Et au bout d'un moment...
C'est ce que disait Christelle, pour vous, c'est contre-productif.
Mais c'est pour les gens, c'est contre-productif.
Et j'en ai même entendu un, pour revenir à ce que tu dis, qui a dit, maintenant, il faut siffler la fin de la récré. Mais de quelle récré vous parlez, monsieur le docteur?
Parce que des enfants, tu sais, la fin de la récré, c'est l'école.
Donc c'est l'infantilisation que vous soulignez.
C'est l'infantilisation.
Oui, mais faire attention à ne pas relativiser
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni des pandémies.
Mais nous non plus.
Nous non plus, mais on peut quand même donner notre avis.
Mais il faut reconnaître aussi, de temps en temps, hier, je suis près chez moi, là, dans plein centre de Paris, à 100 mètres du commissariat du 9e arrondissement, une terrasse blindée de 60 à 100 personnes. Vous savez, ces terrasses en bois qui sont installées maintenant devant les bistrots quand ils avaient le droit d'ouvrir aux terrasses. Oui. Deux gens sans masque, en train de se parler à 10 cm les uns des autres. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même un moment où on ne sait plus comment faire pour expliquer aux gens de qu'il y a des mesures. Là, par exemple, on est dans un studio, pardon, mais on est rentrés dans le studio. On a désinfecté la table, on s'est lavé les mains.
Je suis pas d'accord avec toi.
On a gardé nos masques.
Mais les gens ne croient peut-être plus à... Enfin, ils ne comprennent plus rien, ne croient plus en ce qu'on leur dit, en fait.
Je trouve qu'il y a un peu de démagogie à dire, oh, les pauvres gens, ils comprennent pas.
Non, j'ai pas dit ça.
Je pense qu'on est quand même extraordinairement informés, parfois surinformés, et puis surtout pas simplement les médecins, mais tout le monde a un avis sur la Covid, tout le monde a un avis sur ce qu'il faudrait faire, tout le monde a un avis sur le traitement, tout le monde donne son avis.
Oui, mais donc, ce que vous voulez faire, Christophe Alévac, c'est mettre en garde, c'est-à-dire, il y a les chiffres, alors vous jouez beaucoup avec les chiffres,
il y a un côté dénaturé, quand on entend,
un exemple, quand on entend, moi ça m'a fait bondir, on ne dit pas 500 personnes ont été contaminées, mais un demi-millier. C'est du marketing. On dit, moi, j'ai bondi quand j'ai entendu le ministre de la Santé dire « Une personne rentre toutes les 12 minutes en réanimation en Île-de-France ». Ce truc, quand on y réfléchit, ne veut rien dire. On ne sait pas combien il en rentre en temps normal. On ne sait pas pourquoi elle rentre, dans quel état, enfin, etc. Et moi, j'ai comparé avec d'autres chiffres. Voilà, il y a 6 millions d'enfants qui meurent tous les ans de malnutrition dans le monde. 6 millions. Donc, j'ai compté, toutes les 12 minutes, ça fait 144. Donc, pendant qu'un adulte rentre se faire soigner, 144 enfants meurent. Voilà. Ça, c'est des chiffres. Mais la malnutrition, visiblement, n'accapare pas notre émotion. Parce que le Covid, moi, c'est le truc qui m'énerve le plus depuis le début, a phagocyté absolument
tout le reste
n'existe plus.
Parce qu'on est tout à fait concerné par ça.
Et voilà pourquoi vous essayez quand même, dans la préoccupation du moment, de détourner les choses. Christelle Chollet, on va entendre une autre de vos parodies. On va recevoir, pour un petit coup de fil, une humoriste qui est aussi infirmière. Elle s'appelle Caroline Estremo. Elle cartonne sur Instagram. Et voilà, elle essaye d'associer justement dans cette actualité son humour. Nicolas Briançon, Christophe Alévèque sont avec nous. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
Le Club des Idées, nos invités, Christelle Chollet, Nicolas Briançon, Christophe Alévèque. On parle de la pandémie, mais surtout de la manière de s'en éloigner, de s'en échapper un peu aussi, grâce à l'humour, grâce aux parodies, par exemple, de Christelle Chollet. Hommage aux discothèques, aux boîtes de nuit, hein, écoutez.
Alors on danse tout. Qui dit crise dit sanitaire, qui dit test dit PCR, dit antigénique ta mère, qui dit quatre dit contact, qui dit chômage dit partiel, qui dit travail distanciel, qui dit vague te dit troisième, dit soignant et dit merci, qui dit variant dit anglais, dit brésilien dit breton, qui dit geste dit barrière, qui
qui dit reste des McDo.
Sur Alors on danse de Stromae, Christelle Chollet.
Et oui, on ne danse plus, on ne peut plus danser, on est obligé de danser chez soi, devant sa glace.
C'est puis, votre manière de soutenir aussi.
Oui, puis je voulais. Ah oui, soutenir les discothèques, il y en a pour chacun. Mais je voulais dire aussi que c'est pas parce qu'on est en pandémie et qu'on est en urgence sanitaire qu'on ne peut plus rien dire et plus se moquer de choses, en fait. C'est là qu'il faut le faire. Et
puis bien au contraire.
Et nous, les humoristes, on est là pour ça. C'est ce qu'on nous demande aussi et c'est ce qu'on a envie de faire en plus.
C'est fondamental même. Ouais, enfin, je veux dire, heureusement.
Heureusement.
Je suis pas dans ce créneau-là, moi, du tout, en tant que comédien, vraiment. Mais heureusement qu'il y a des gens pour taper dans de foutre des coups de pied dans la fourmilière. On est là pour ça, d'une certaine façon.
Oui, vous en avez une illustration parfaite avec Caroline Estrémo. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir tout le monde.
Vous qui, à la Villette, infirmière, et à la scène humoriste, infirmière, sa mère, c'est votre spectacle. Comment tenter, je pense que vous vous entendrez très bien avec Christelle Chollet, comment tenter aussi de dédramatiser la situation? Par exemple, en ce moment, dans votre établissement, voilà, qu'est-ce qui vous fait réagir et qu'est-ce que vous parodiez, Caroline?
Je parodie notre quotidienne infirmière, finalement, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, ça, tout le monde le sait. Et en fait, simplement, je le raconte avec humour, tout simplement. Voilà. Et plus la situation qu'on vit tous, mais je pense que c'est pas que soignant, c'est tout le monde. On a vraiment besoin de rire, donc tout est sujet à déconner pour penser à autre chose que ce Covid.
Ouais, et vous êtes obligé de rappeler les consignes, la précaution. Est-ce que vous vivez aussi avec ces chiffres sur la tête, avec cette réalité très pesante?
On essaye un petit peu. C'est vrai que notamment pendant la première vague, j'ai fait quelques vidéos sur le port du masque qui était un peu fait un peu n'importe comment. Il y avait de quoi faire aussi. Les gens qui allaient dans les centres commerciaux faire leurs courses avec des gants qui avaient ce même gant qui avait tenu le caddie, qui avait tout touché le portable, qui allait à la joue. Donc il a fallu expliquer pas mal de choses. Mais bon, après, on se moquait un peu gentiment, les soignants, parce que nous, on nous apprend à manipuler les gants, à manipuler. Donc c'est normal que les gens normaux, les moldus, aient eu un peu de difficultés.
Les moldus.
Je suis sûre qu'elle irait très bien, Christelle, dans les spectacles que vous annoncez. Alors c'est du live streaming, parce que vous dirigez le théâtre de la Tour Eiffel à Paris, mais je crois que le 15 avril, il y a un spectacle que vous organisez avec des humoristes.
Avec Caroline aura sa place. Alors si elle, apparemment, vous avez un accent du sud, vous êtes du côté du sud,
Caroline.
Du côté
de chez toi, je crois.
Toulouse.
Voilà. Ah bah, du côté loin. De chez moi, parfait. Toulousaine.
Ouais, oui, elle est Christelle compatible.
Vous êtes compatible. Si vous avez envie de venir le 15 avril nous rejoindre, en fait, encore une fois, on parle d'être ensemble et comme on l'a prouvé dans certains spectacles en streaming, on peut l'être avec de la distanciation, avec des règles sanitaires très strictes et tout. On va faire un live streaming avec pas mal d'humoristes féminines sur scène et ça va s'appeler Clandestine et ce sera le 15 avril à 20h. Bah, depuis le théâtre de la Tour Eiffel.
Ouais. Caroline Estrémo, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, merci. Caroline, pour ce petit coup de fil. Alors qu'ils occupent le terrain, nos amis Christophe Alévèque a réalisé sur la scène du Théâtre du Rond-Point un spectacle, Le Trou Noir 1, Le Trou Noir 2 et...
Et là, fin avril, malheureusement, je vais faire le troisième. Le trou noir, j'appelle l'épilogue.
C'est bien. Marquer la fin quand même.
Je n'avais jamais fait ça de ma vie, c'était au mois de mai de l'année dernière. Le théâtre du Rond-Point a fait 700-800 places hein.
Oui.
Et me pointer devant la salle vide, ça a été un moment que je n'oublierai jamais.
Spectacle que vous avez capté pour les réseaux sociaux,
capté pour France 3 aussi qui l'a diffusé. Oui. Et je voulais pousser l'absurdité au bout. Et parce que montrer au bout d'un moment, souvenons-nous quand même, il y a un an, on ne parlait pas du tout de culture. Pendant des mois, on n'a pas parlé de nous. Hein.
Oui.
On était vraiment, mais alors, tout le monde reprenait. Et nous, non, c'était... Et moi, je me suis dit, je vais y aller, voir, montrer aux gens ce que c'est que de jouer devant une salle vide.
Oui.
Et j'ai eu plein de témoignages. D'habitude, les réseaux sociaux, c'est plutôt, tiens, prends-toi donc ça dans le... Hein. et là, en fait,
maintenant.
C'était hyper bienveillant. Parce que les gens... C'est hallucinant. Ils écrivaient en disant...
Ils compatissaient. Ouais.
Non, c'était plus que ça. Ils étaient sur scène avec moi.
Avec vous, ouais.
Et en fait, ils ont un peu découvert le métier. Parce qu'en regardant, en fait, ils n'étaient plus dans la salle. Ils étaient avec moi.
Ce sont des spectacles qu'on peut retrouver.
Au moins, ça aurait servi à ça. Mais vivement que ça s'arrête.
Ah bah, j'imagine.
Non, on a passé des moments étranges. Nous, on a capté le canard à l'orange comme ça devant
c'est vrai.
Une salle vide. C'est... C'est quand même un moment...
Diffusé sur France Télévisions, et là, 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Hein,
on le fait de temps en temps dans notre métier, on appelle ça des filages. Mais là, quand on joue vraiment...
Non, c'est très étrange.
C'est très étrange.
Hyper étrange.
Vous nous avez apporté un texte.
Non, parce qu'on a parlé avant l'émission, on a parlé avec Christophe. Il y a un match quand même ce soir.
Ah, il y a un match ce soir. Non, je vous laisserai. Vous inquiétez pas.
C'est important avec une équipe qu'on adore. Et je trouve que cette année, c'est les 30 ans de la mort d'Antoine Blondin, qui est un écrivain que je vénère. Moi, mon seul travail que je puisse faire, c'est parler des auteurs, ou en tout cas dire leurs mots. Et Blondin a écrit sur le rugby des choses merveilleuses. Je dis un peu rapidement, parce qu'on a le temps, on n'a pas le temps.
Vous avez une minute 54.
Très bien. Le rugby est donc aux antipodes du One Man Show. Pardon, messieurs, dames. Il propose un art subtil de la réussite dans l'abnégation et dans l'amitié, où l'homme réputé inachevé par essence se complète enfin à travers les autres. Un semblable culte de l'impersonnalité suppose une juste distribution des tâches et qu'à chacune des vocations physiques correspondent des dispositions morales. La foi, l'espérance et la charité. La foi appartient aux avants dans leur conquête du ballon. On les voit têtus, obtus, battre l'air à la touche avant de s'emboutir dans le paquet de la mêlée où ils tordent de la viande comme on essore du linge en roulant inlassablement des bras de lavandière en béton armé. La charité vient des demi qui transmettent la balle par un rapide calcul où l'esprit de finesse s'introduit dans l'esprit de géométrie. L'espérance, enfin, s'attache à la course des trois quarts, avec l'aubaine éventuelle d'un arrière intercalé, en l'honneur de qui leurs adversaires directs sonnent des halali, car le plus pathétique et le plus succulent apparaissent à l'instant où le rugby démasque ce beau visage ouvert, en même temps viril et frivole, qu'il a parfois cette allégresse concertée où les éclairs de l'improvisation zèbrent le stade pour une illumination qui annonce l'aube.
Ah bah alors si avec ça la France ne gagne pas ce soir face à l'Écosse, je ne comprends plus rien.
Allez les Bleus,
merci
Antoine Blondin. En tout cas c'est une chouette équipe qui est très... On se disait comme c'est important en ce moment...
Vous avez dit qu'il était...
Non mais comme c'est important en ce moment d'avoir une équipe comme ça qui arrive à nous faire vibrer tous ensemble, encore une fois, je crois qu'on est dans un moment où le bateau tend très très fort.
On se le disait tout à l'heure, il nous reste ça, et c'est très bien. Ça sonne creux, évidemment, dans ce stade.
Mais
la vibration, elle est là. Hein,
ils ont une telle générosité dans le jeu, dans ce qu'ils proposent, dans le jeu qu'ils proposent.
On est d'accord.
On a envie de les suivre.
Merci beaucoup. Vous serez devant le match aussi,
Christelle Cholet ? Bien sûr, si il y a plein d'artistes qui proposent énormément de choses aussi. Je ne veux pas aller contre mes copains par rapport au rugby, mais c'est vrai qu'il y a aussi une générosité absolue sur les réseaux. Tous les artistes, il n'y a pas que nous, il y en a plein qui donnent des choses, qui balancent, qui font rire, qui font rêver.
Vous en étiez un peu les...
Vivement
il n'y a pas de porte-parole, mais vous étiez des relais.
Non, voilà. Mais vivement qu'ils reviennent en salle, que le public revienne en salle. Mais en attendant, on est là.
Christelle.
Le télétravail, c'est une vraie souffrance. C'était de cul en visioconférence. T'as vu mon nez sur cette vidéo. Et on dirait la fille de Cyrano. Qui dit crise, dit sanitaire.
Mais merci à vous. Oui, bah vous rappelez la
pardon,
genèse.
Pardon.
Rappelez votre vie. Voilà, vous l'avez connue toute petite, à 18 ans, à cause de Roger Louret. Ouais. Merci infiniment. Christelle
merci
Cholet,
Wendy,
le 15 avril, live streaming, Les Clandestines,
au
théâtre de la Tour Eiffel. Nicolas Briançon, on a hâte de vous voir au théâtre Montparnasse. Jacques et son maître à la rentrée. Cap sur la rentrée.
Et j'ai pas dit qu'Antoine Blondin était publié aux éditions de la Table Ronde, pardon, je l'ai dit quand même.
C'est très bien. Merci Christophe Alévèque. Les Trous Noirs, 1, 2, 3, épilogue à venir. Et votre conférence de presse, 1 500 000 vues, et c'est quelque chose, ça fait du bien de défendre.
Et vivement que ça reprenne.
Merci les amis.
Vivement le vrai public.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Wendy Bouchard.
C'était en 1978, il y a exactement 41 ans. Le baron Empain, alors PDG du groupe Empain-Schneider, était libéré après avoir été kidnappé 63 jours. Ce rapt bouleverse la France et on y revient avec vous, Aude Leroy, en direct sur cette histoire que vous nous faites revivre grâce aux archives d'Europe 1.
Et oui, le 27 mars 1978, Édouard-Jean Empain, 40 ans, rentre chez lui, avenue Foch à Paris, vêtu d'un vieux survêtement. Il a la barbe hirsute, les cheveux trop longs. Il rentre dans cet état sans que personne ne s'en aperçoive. Et pourtant, cela fait 2 mois que la France tout entière suit quotidiennement en une des journaux chaque révélation sur la vie privée de cet homme d'affaires belge. Plutôt discret, patron d'un empire industriel, playboy aux aventures extra-conjugales et joueur passionné de poker. L'enlèvement est bien ficelé. En pleine matinée, ce 23 janvier 1978, alors que le baron quitte son domicile avec son chauffeur, un motocycliste chute devant la voiture. 3 hommes masqués, armés de pistolets mitrailleurs, l'enlèvent violemment. Jean-Denis, son chauffeur, détenu quelques minutes, témoigne.
Il y avait un qui avait l'air de les commander, qui respectait parce qu'ils allaient passer vite. Ils avaient dû préparer leur coup depuis longtemps. C'était trop bien préparé.
L'alerte donnée, un quadrillage policier impressionnant est déployé. 5000 forces de l'ordre occupent route, carrefour, multiplient les contrôles d'identité. 3 jours après le rapt, une demande de rançon arrive. 100 millions de francs, la plus grosse jamais réclamée jusque-là. Mais surtout, il y a une phalange de l'auriculaire gauche du baron coupée dès le premier jour.
Ce soir, la famille et l'entourage du baron Empain ont peur. Ils savent que le baron est entre les mains de gangsters tout à fait déterminés. La preuve est définitivement apportée par le fragment de doigt découvert dans une consigne de gare. L'effet psychologique que recherchent les ravisseurs semble avoir été atteint. Et on a de grandes craintes pour la vie du baron.
Car personne ne sait où est le baron Empain. On apprendra qu'il a vécu 7 semaines durant dans des conditions précaires, encagoulé, enchaîné, mal nourri, dans l'obscurité et dans le froid. Après plusieurs échecs de remise de rançon, le 24 mars, un nouveau rendez-vous s'organise. Il se termine par une fusillade entre les gangsters et les policiers qui arrêtent un des cerveaux du rapt, Alain Cayol. Et là, les policiers tentent un coup de bluff.
Après 3 heures d'interrogatoire où le gangster n'a rien dit, les hommes de la criminelle, en désespoir de cause, expliquent à Cayol que ses complices n'ont plus aucune chance de toucher la rançon, que garder le baron plus longtemps est inutile et qu'il vaut mieux le libérer. Cayol se tait et soudain propose au commissaire Ottavioli un marché. « Je téléphone à mes complices, dit-il, si vous me donnez votre parole de ne pas chercher à identifier le numéro que je vais faire. »« Parole, répond le commissaire Ottavioli, qui lui tend un téléphone et se détourne. » Cayol forme une première fois le numéro, recommence encore, et un complice décroche. « Il faut relâcher le baron, dit Cayol, c'est foutu, jamais vous ne toucherez la rançon. » En raccrochant, Cayol se retourne vers le patron de la brigade criminelle et lui dit « Le baron sera libre ce soir. »
Le retour est difficile pour le baron. Sa vie privée a été étalée aux yeux de tous. On découvre ses incartades de playboy, sa passion pour le poker. À tel point que tout bascule, le baron divorce. Son poste de PDG est remis en question par ses collaborateurs. Alors il part 6 mois aux États-Unis et puis assiste, 4 ans après les faits, au procès de ses ravisseurs à qui il pardonne.
La plupart de mes ravisseurs aujourd'hui sont en prison, c'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté. Et vous savez, la privation de liberté, je pense que je sais ce que c'est. C'est un état absolument insupportable. Alors, pour ceux de mes ravisseurs qui sont en prison aujourd'hui depuis 4 mois déjà, ou 5 mois, je ne sais pas, je les plains beaucoup. Je leur pardonne.
Alors la vie de cet homme, Wendy, bouleversée par son rapt, qui a tenu donc la France en haleine, a fait l'objet d'un film en 2009. Le baron Empain l'a vu, il le jugera conforme à la réalité.
Oui, un film avec le baron Empain interprété par Yvan Attal. Quelle histoire, en effet, qui a tenu la France notamment en haleine et que vous nous avez raconté de nouveau avec les archives d'Europe 1. Merci Aude Leroy, merci beaucoup.
Europe 1, Wendy Bouchard.
Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir.
Alors, quelle soirée qui s'annonce dans quelques secondes avec vous et jusqu'à l'arrivée du coup d'envoi du match France-Écosse.
Exactement, on est ensemble jusqu'à 23h30, on aura le temps de débriefer après l'exploit. Si l'exploit a lieu, imaginez qu'il y ait le même scénario contre le Pays de Galles et que l'équipe de France arrive à marquer au moins 21 points, 4 essais. Cela voudrait dire que la France remporterait le tournoi Destination, ce serait formidable. France-Écosse, c'est ce soir. Et 20h avec nos invités, évidemment, toutes les clés du match.
Nous serons là. Merci et à tout de suite pour l'info présentée par Julien Pierce.